Amen, amen, amen.
Amen.
Oh, on est bien. Amen. On est bien dans la présence de Dieu. Bonsoir à ceux que j'ai pas vus encore. Bonsoir. Bienvenue. Bien, nous sommes à la troisième session. Et ce soir encore, on va voir un petit peu les particularités du couple. Ce couple que nous voyons, cette belle personne. Le couple qui est une personne. Le couple qui n'est pas seulement moi, qui n'est pas seulement ma femme, mais qui est moi plus ma femme. C'est quelque chose que l'on a construit. C'est quelque chose, Dieu a dit, et vous quitterez et vous créerez quelque chose de nouveau. Amen. Et donc on doit tout faire. On doit tout faire pour ce couple-là. On doit tout faire pour qu'il soit heureux, pour que cette personne-là soit bien. Et ça, c'est notre responsabilité. Hein? Et on a vu que le couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez. Et le couple est malmené en ce moment dans cette société où il n'y a plus de repères, où les familles sont bousculées. Mais nous tenons bon le Amen. Flambeau. Amen.
Amen. Amen.
Et mon souhait, c'est que dans l'église, les couples soient restaurés, les familles soient en santé.
Amen.
Parce que l'église, c'est une famille de familles. Et si les familles sont restaurées, l'église sera en santé.
Amen.
Et pour qu'une famille soit restaurée, pour qu'une famille soit en bonne santé, il faut que le couple soit en bonne santé.
Amen.
Si le couple se casse la figure, la famille se casse la figure. Et après, vous avez des églises qui sont déséquilibrées parce que les familles sont déséquilibrées. Alors on se bat pour ça. Et on a notre responsabilité pour ça.
Amen.
Amen. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé « Deuxième chance ». C'est-à-dire qu'avec Dieu, on a toujours une seconde chance. Donc si vous êtes dans un moment de difficulté, si votre couple en ce moment est en difficulté, alors vous êtes au bon endroit.
Amen.
On prie pour ça. Amen. On prie pour qu'il y ait une restauration. On prie pour que les conceptions changent parce qu'on peut toujours recommencer.
Amen.
Amen, amen, amen.
Amen.
Une nouvelle naissance. Un nouveau départ. Et sinon, on approfondit encore notre couple. Amen. Et ce soir, on va pas tout voir ce soir, mais quatre choses qu'on a vues la semaine dernière qui vont se présenter à nous, là, pour les prochaines sessions. On a vu que le pardon est une nécessité. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas enseigné, parce qu'on a fait plein d'erreurs, parce qu'on ne savait pas. Et donc, on s'est blessé. On avait des attentes irréalistes envers l'autre. Pas assez de communion avec le Seigneur et plus d'attentes avec l'autre. Et ça a amené des blessures. Et donc ça, il faut que ça soit visité. Et il faut que ça soit pardonné. Amen.
Amen.
On verra le temps passé ensemble. On verra combien ça, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas une option. On va voir, si un couple ne passe pas de temps ensemble, il va mourir. C'est une réalité. On va voir comment aussi pratiquer les langages de l'amour. Et enfin, on verra, dernière chose, valoriser notre conjoint.
Amen.
Qui est une décision. Je ne vais pas anticiper le cours, mais ce n'est pas une valorisation du conjoint, ce n'est pas comme mon conjoint fait les choses comme je veux. Mon conjoint, il a des qualités et des défauts, mais je le valorise, c'est une décision.
Amen.
De même que l'autre me valorise aussi. Et vous verrez que c'est important dans un couple d'être dans une dynamique de valorisation.
Amen.
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 Alors ce soir, on va regarder le pardon. Bien sûr, ce n'est pas un enseignement sur le pardon. Un enseignement sur le pardon, c'est deux sessions, deux fois une heure et demie. On va juste voir quelques lignes. Et je vais vous demander ce soir de vraiment d'être proche de votre conjoint pour vraiment sentir ce besoin de pardon et de demander pardon. Vous comprenez qu'on ne peut pas recommencer quelque chose de neuf. On ne peut pas tourner une page et dire « Bon, maintenant, on part sur des nouveaux fondements, on part sur des nouvelles bases. Les enseignements nous ont appris comment fonctionner. » On ne peut pas faire ça sans avoir fait une repentance. Eh oui, c'est biblique. On a une repentance à faire. Pourquoi? Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va être ensemble, si l'autre n'a pas pardonné, si l'autre est encore dans les blessures, dans l'offense, dans l'amertume, eh bien, il va toujours reprocher les choses à l'autre. Ça va toujours remonter parce que ce n'est pas guéri. Et là, vous allez tuer les efforts que vous avez faits pour recommencer une nouvelle intimité. Donc, il est important de comprendre qu'on a fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. Mais, je crois que je n'en ai pas besoin ce soir. Je suis à fond, je suis à bloc. Mais, on a tous fait des erreurs. Ok ? Donc, on a besoin de travailler l'offense en disant « Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à demander pardon. » Parce que, vous savez, il y a quelque chose d'incroyable chez l'être humain. Il est très fort pour voir tout ce qui ne va pas chez l'autre. Il a un petit peu plus de mal à regarder ce qui ne va pas chez lui.
Amen.
Hein ? Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Je continue quand même, c'est pas grave. C'est la réalité. Ok ? Et Jésus le savait très bien. Parce que lui, il n'a pas été par quatre chemins. Il nous a traités d'hypocrites. Pourquoi ? Hein ? Regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin et toi, tu ne regardes pas ta poutre ? Ça veut dire que toi, tu critiques ton conjoint, mais tu es pire que lui.
Amen.
On a besoin d'être miséricordieux avec soi-même et avec le conjoint.
Amen.
On a besoin de miséricorde. On a besoin de réaliser que, ben oui, je suis pas parfait. Elle n'est pas parfaite. Et j'ai besoin de demander pardon. Et j'ai besoin de pardonner. Amen.
Amen.
Et c'est fondamental ce que je vous dis. Parce que vous allez voir que vous allez avoir des moments à deux. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir comment l'ennemi va se servir de ça. S'il n'y a pas la vraie repentance, l'ennemi va vous titiller en disant ouais, regardez, il n'a pas changé. Regardez, il dit qu'il change, il n'a même pas changé. Et il va remettre la zizanie pour que votre couple ne soit pas uni. C'est son but à lui. Il a un travail à faire. C'est de casser la famille, casser les couples, de désunir les couples. Mais nous, on doit être plus intelligent que ça.
Amen.
Et on doit voir plus loin que ça.
Amen.
Et on dire, non, tu n'auras pas mon couple. On a une revanche à prendre par rapport à l'ennemi. On a une revanche. Il a fait des dégâts dans notre famille, de génération en génération. Mais ça s'arrête.
Amen.
Il y a un moment, ça s'arrête. Et c'est nous qui lui disons, par le sang de Jésus, c'est fini aujourd'hui, terminé.
Amen.
Tu ne toucheras plus à ma famille.
Amen.
Tu ne toucheras pas à mes enfants. Tu ne toucheras pas à ma postérité.
Amen.
Amen. Et pour ça, il faut qu'on mette un peu les mains dans le cambouis. Pour ça, on a besoin de faire taire notre orgueil. Pour ça, on a besoin de rentrer dans un chemin d'humilité.
Amen.
On a besoin de demander pardon. Et on a besoin d'être pardonné. Amen.
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 Chacun est appelé à s'excuser, à demander pardon pour son comportement, ses paroles et ses pensées. Pardonner, c'est pas une option. Pour se redonner une vraie chance. Ou pour bonifier notre couple. Mais il faut accepter le prix à payer. Le pardon nous coûte notre orgueil. Le pardon nous coûte parce que pardonner veut dire que on arrête de faire pitié. On arrête de jouer au caliméro. On arrête de voir tout ce qui ne va pas, tout ce que l'autre nous a fait et de se positionner en victime. Non, on n'est pas appelé à être des victimes. D'accord ? On est appelé à prendre notre vie en main.
Amen.
On n'est pas appelé à la subir. On est appelé à la vivre. Notre... Bonsoir. Prenez place. On arrête de vouloir nous faire justice. On laisse ça à Dieu.
Amen.
Okay ? On abandonne ça aux pieds de Dieu. Et on arrête de vouloir se faire justice. De faire valoir nos droits. De mettre un terme à notre colère et à notre ressentiment. C'est une décision. C'est pas quand ça ira mieux. C'est maintenant. Les deux, maintenant, décident de faire un stop parce que on ne pourra pas continuer si on ne pardonne pas à l'autre comment il s'est conduit, les erreurs qu'il a fait et tout ce que je vois chez l'autre, mais peut-être que tu ne vois pas chez toi. Pardonner, c'est un choix. C'est une décision de notre part. C'est pas un sentiment. Quand les gens nous disent « Mais je ne peux pas lui pardonner, tu comprends pas ?» Souvent, les gens attendent que quelque chose se produise avant qu'ils puissent pardonner. Ils attendent d'avoir les bons sentiments. Mais ça ne marche pas. Il y a un ennemi puissant qui va toujours être là pour te rappeler ce que l'autre t'a fait. Et pour réactiver la blessure à chaque fois. Ce qu'on appelle le ressentiment. Je ressens. C'est pour ça que le pardon, c'est une décision. C'est un choix. Première chose, en fait, très souvent, quand nous disons « je ne peux pas pardonner », au fond, nous voulons dire « je ne veux pas pardonner ». On a besoin de Dieu pour nous aider à pardonner. Mais il faut d'abord le choix. Dieu ne nous aidera pas à pardonner si on ne veut pas pardonner. Donc ça part déjà d'une base, d'une décision de dire « Ok Seigneur, je veux redonner une vraie chance à mon couple. Alors je décide de pardonner à mon conjoint et je demande pardon. » Et c'est là que ça va faire mal. Comme on voit toujours ce qui ne va pas chez l'autre. On va dire « Moi, demander, mais non, moi je n'ai pas besoin de demander pardon. C'est lui. » Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On va dire « Ok, on se prend la main et on se demande pardon tous les deux. » Parce que si on commence à compter... On n'a pas fini. Tu te rappelles, tel mois, tac, hein, un point, 1-0. Et deux, tac. Là, c'est le couple qui perd. D'accord ? Tous les deux, on a fait des erreurs. Bien comprendre le pardon. Le pardon ne peut être commandé ou imposé ou encore exigé. On ne peut pas demander, on peut pas dire à quelqu'un, faut que tu pardonnes, pardonne ! On ne peut pas. Le pardon, c'est un acte du cœur. C'est une décision qui vient du cœur. Seigneur, tu me demandes de pardonner, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ce que tu as fait à la croix, Seigneur, pour moi. Ok, je pardonne aussi aux autres. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aux autres.
Amen.
C'est parce qu'on a été pardonné qu'on peut pardonner. Parce qu'on sait ce qu'on a, ce que nous, on ne méritait pas. Et on l'a reçu. Alors, si nous, on l'a reçu, alors qu'on ne le méritait pas, on peut le donner aux autres.
Amen.
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 Ou bien le pardon est libre, ou bien il n'existe pas réellement. De même que Dieu nous a pardonné par amour, nous pouvons aussi par sa grâce pardonner aux autres, et plus particulièrement à notre conjoint, pour le meilleur de notre couple. La guérison se fait rarement instantanément. Si les excuses et le pardon nous permettent de nous rapprocher, les blessures peuvent prendre un peu de temps pour guérir. Faut pas rêver. C'est pas toujours magico. Non, non, non. Quelquefois, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est pas grave. Le processus est enclenché.
Amen.
C'est ça qui compte. Le processus est enclenché. L'autre l'a entendu. Et bien sûr, on va prendre des bonnes habitudes. Ça s'accompagne de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes, pour pas retomber dans nos travers. Amen. Parce que le mariage, ça nous fait montrer aussi le moins bon qu'il y a en nous. Donc c'est un combat de chaque jour. Hein? Parce qu'on aimerait donner une belle image de nous, mais dans le mariage, on voit que c'est pas si évident que ça. Le mauvais de nous, il ressort. Et ouais. Mais c'est notre cœur qui a besoin d'être changé. Ce soir, je voudrais qu'on prenne quelques instants. Je voudrais qu'on prenne quelques instants, compris, pour qu'on engage ce soir le pardon. Alors, on va prendre quelques minutes. Prenez la main de votre femme. Prenez la main de votre mari.
Viens, Seigneur, dans nos vies.
Réalisez le pardon.
Inonde nos vies de ta présence.
Besoin de toi, yeah.
Alors ce que nous avons fait ce soir, C'est quelque chose qui est appelé à être fait régulièrement dans les couples. Amen. C'est pas une fois de temps en temps, c'est régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de ne pas s'offenser. Il est impossible. J'aimerais pouvoir le dire maintenant qu'on est enseigné, maintenant qu'on est restauré, tout ça c'est fini. Mais je ne vous garantis pas le résultat. À cause de notre nature charnelle. À cause de notre cœur dur. On blessera encore et on sera encore blessé. Et c'est pour ça que la deuxième chose à faire, c'est de mettre en priorité le cœur à cœur. Ce que je vais vous enseigner ce soir, c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Très, très difficile à mettre en place. Et pourtant, essentiel. Essentiel. C'est la vie du couple qui est en jeu. Mais vous allez avoir des défis à relever incroyables. Même si là, vous sortez de cet enseignement d'ici 4 semaines, vous êtes motivé, vous allez le faire. Mais vous allez voir qu'il va falloir s'accrocher. Parce que le temps nous est volé. Le temps nous est volé par l'ennemi. Il vole notre temps. Et c'est pour ça que c'est un combat. Et on va le regarder ce soir. Mettre en priorité un cœur à cœur. Prendre du temps ensemble, au moins une fois par semaine. Justement pour régler les petits problèmes. Là, on fait un grand nettoyage. C'est un enseignement où on se pardonne. On repart à zéro. On est sur des bons fondements. Là, on a la patate et on y croit. Mais il faut entretenir. C'est comme une maison. On a fait le grand nettoyage. Mais il faut nettoyer tous les jours. Et il faut épousseter tous les jours parce que, on ne sait pas pourquoi, mais la poussière, elle s'accroche à nous. Nous, on ne veut pas de la poussière. Mais elle vient. Et bien, c'est pareil. Les irritations. Les incompréhensions. Les petites choses qui nous énervent. Et puis qu'on n'a pas le temps de régler. Tout ça, il ne faut pas les accumuler. Il ne faut pas jouer au petit poussé avec le sac et les petits cailloux. Parce qu'à un moment, les petits cailloux, ben, ça pèse lourd. Et à un moment, on n'avance plus parce qu'on a un sac qui est comme ça. Et on ne comprend pas. On accumule, on accumule, on accumule frustration, on accumule colère, on accumule incompréhension, on accumule quiproquo. Et on commence à être irrité à la maison. On commence à mal se parler à la maison. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est parce qu'il n'y a pas de temps pour régler les problèmes. Évidemment, un cœur à cœur, si vous le faites bien, eh ben, ça va rapidement pas tourner à que ça dans toute la soirée. Mais ça permettra de prendre un temps et de dire, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai senti que tu étais énervé et tout ça. C'est l'occasion de dire, mais chérie, quand il s'est passé ça et ça et ça, effectivement, ben, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Capacité d'ouvrir son cœur à l'autre. Capacité d'être transparent. Capacité de ne pas avoir ce cœur orphelin qui a toujours appris à se débrouiller tout seul, qui a toujours appris à être indépendant, qui s'est protégé, qui s'est enfermé dans une tour d'ivoire parce qu'il a pris tellement de coups qu'il ne veut plus prendre de coups, donc il ne s'ouvre plus à l'autre. On apprend à créer une nouvelle intimité.
Amen.
On apprend à se parler. On apprend à ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur. On apprend à être de nouveau vulnérable. Parce que s'il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas d'intimité. Et s'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de couple. Alors pour certains, je peux comprendre, c'est un gros effort. Parce que si on a un cœur orphelin, si on a un cœur où on n'a pas été habitué à parler, à communiquer, on a appris à se débrouiller tout seul, on a appris que quand il y a un problème, je rentre dans ma grotte, et puis je dis à l'autre, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, et puis je reviendrai tout à l'heure. Non, on apprend à ouvrir son cœur, on apprend à se rendre vulnérable et on apprend à communiquer. C'est pas facile, mais quand je vous dis là que si vous voulez sauver votre couple, si vous voulez que vos couples soient un vrai couple, il va falloir mettre les mains dans le cambouis.
Il dit que ne te couche pas l'oreiller,
ouais,
avant de demander pardon.
Ouais, exact. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. Restaurons et protégeons l'intimité de notre couple. C'est ça le but. C'est pour certains, c'est restaurer l'intimité parce qu'il n'y en a plus, parce qu'il y a eu tellement de dégâts qu'il n'y a plus d'intimité. Pour d'autres, c'est une intimité qui est effritée. C'est-à-dire qu'il y a encore, mais on sent que c'est compliqué. Tout ça, là, il est temps de repartir sur une bonne base. Alors comment ? Deux choses. En mettant du temps à part et en protégeant ce temps. Mettre du temps à part, c'est une première chose, c'est une première décision. Mais la chose la plus dure, c'est de le maintenir. Un couple privé de temps passé ensemble est comme une plante privée d'eau. Certaines plantes survivent plus longtemps, mais finalement, tous s'étiolent et meurent. Et ça, c'est l'histoire des couples. Au début, on est ensemble, on passe du temps ensemble, et après, petit à petit, tout doucement, on passe moins de temps ensemble. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a les habitudes qu'on a prises. On pourrait faire une liste incroyable mais vraie. Et qui fait que, ah, tu vois, on n'a pas de temps. Ah oui, on n'a pas de temps. Et finalement, tout doucement, on n'est plus ensemble. On est ensemble physiquement, on est ensemble pour la logistique, on est ensemble pour les enfants, on est ensemble pour le travail, on devient une équipe. Et puis comme on est ensemble 24 heures sur 24, bah, c'est une équipe qui tourne, parce qu'on peut, hey, oublie pas demain, hein, c'est pas, le bureau il a des horaires. Et nous, on n'a pas d'horaire. Donc, on peut se parler à 3h du matin. Oh, chérie, t'as pas oublié ça. On est une équipe. Mais une équipe, ça fait pas l'intimité. Ça crée pas l'intimité du couple. Ça parle pas de nous. Ça parle pas du cœur. Ça parle pas de ce qui se passe dans mon cœur. Ça parle des choses pratiques. Ça parle des choses pour que ben, la famille avance bien, qu'on donne le change. Parce que quand tu regardes, ben ouais, ça tourne. Ça tourne. Mais est-ce que ça tourne dans ton cœur? Donc si petit à petit, on ne fait pas attention, on n'a pas ce temps ensemble, ben petit à petit, le couple va disparaître. Au profit de la famille, des enfants. Mais le couple, lui, il n'y a plus de couple. Mais on ne le voit pas tout de suite. Parce qu'on a un ennemi rusé en face de nous. Il est rusé. Donc on croit que tout va bien. Mais ça ne va pas. Et on ne sait même plus comment parler à l'autre à un moment. On ne sait même plus comment lui parler. Parce qu'il y a tellement de frustration que quand tu commences à parler à l'autre, c'est de l'agression. Ah, comment ça ? Oh, d'accord, ok. Ok. Pardon. Ça devient tendu. Après, il y a le problème de la sexualité. Ben oui, si c'est tendu comme ça, si on ne se parle plus, ou quand on se parle, c'est à moitié agressif. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ben on va faire de moins en moins l'amour. Parce que l'amour, c'est une continuité de l'intimité. Ben oui. Et puis ça commence à s'enclencher petit à petit. Et on résiste. Et là, on est dans de la résistance. Mais le couple est en train de mourir. Pas de temps pour mon couple, le couple est en danger. Petit à petit, le couple perd de son intensité amoureuse. La routine s'installe et les conjoints se sentent de moins en moins aimés par l'autre. Le passage de mon couple amoureux vers un couple de colocataires est inéductable. C'est inéductable. Peut-être que vous allez rester ensemble parce qu'il y a les enfants, parce qu'il peut y avoir des biens matériels ou parce que... Ben, finalement, on s'entend quand même pas mal. Ou on est chrétien, on ne va pas divorcer. Il peut y avoir plein de choses. Mais vous n'êtes plus un couple amoureux. Parce que vous n'avez pas su entretenir la flamme. Vous n'avez pas su entretenir ce qui fait qu'on se séduit encore. Ce qui fait qu'on est heureux de passer du temps ensemble. On est content de dire, tiens, ce soir, on va au resto pour tous les deux, on a 2 heures ensemble. Waouh, je suis content de passer du temps avec toi, je suis content d'être avec toi. C'est pas une sinécure hein, d'aller au resto avec sa femme. C'est du bonheur.
Amen.
Mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Observez au resto, si vous avez un peu de temps. Regardez les gens au resto. Vous allez voir, la plupart, ils sont sur des téléphones. Ils ne se parlent plus. Parce qu'ils n'ont plus rien à se dire. Ils vont au resto. Mais pas, ils parlent pas, ils sont pas là pour parler de ce qui se passe dans notre cœur. Mais si ton mari, si ta femme, si on n'est pas capable de savoir ce qui se passe dans nos cœurs, nos émotions, ce que l'on vit, les changements qui s'opèrent en nous, si on n'est pas capable de faire tout ça, et il faudra me donner du sens après à notre couple. Il faudra donner du sens au mariage, hormis les enfants, hormis qu'on a une maison, hormis ces choses-là. Quel est le sens si on perd le sens? Ça va, vous êtes là? Tout va bien? Voilà. L'arrivée des enfants, c'est souvent un moment propice à ce changement d'habitude. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte, mais avant les enfants, ben on avait que nous à penser. Et puis souvent, ben on était, il n'y a pas très longtemps, on était fiancés, on s'est rencontrés, donc tout se passe bien encore. Tu vois? Puis l'arrivée des enfants, ça commence à bouleverser les choses. C'est-à-dire que là, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps pour nous, tout est pour l'enfant, tout est concentré sur l'enfant. Alors ça pourrait se comprendre pour les premières semaines, quelques mois rapidement, mais attention aux mauvaises habitudes. Attention à ce que l'arrivée de l'enfant ne vienne pas priver le couple d'intimité. C'est fondamental. Il faut séparer tout ça. Vous comprenez? Si la maman commence à aller coucher avec le petit bébé dans la chambre, et puis que, bah oui, mais il faut le surveiller. Ou le bébé vient dormir dans le lit, à trois dans le lit. On peut parler d'intimité? Alors si c'est exceptionnel, parce que l'enfant est malade ou qu'il y a eu un problème, ok. Mais si ça devient une habitude? Sérieux? Un problème? Le couple, c'est la fondation sur laquelle nous bâtissons notre famille. Si le temps pour le couple est négligé, c'est toute la structure familiale qui est en danger. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ça va se casser la figure. Vous comprenez? Et quelle image on donne à nos enfants? Quelle image on donne à nos enfants de notre couple chrétien? Ça peut être dramatique.
C'est dramatique.
Les enfants, ils voient. Ils voient les parents. Il n'y a plus de bisous. Il n'y a pas de gestes tendres. Il n'y a pas de compliments. Il n'y a pas de valorisation. L'enfant, il assiste à tout ça. Et puis, il entend un autre discours quand il vient à l'église. Il voit d'autres attitudes à l'église. Mais chez lui, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais il n'y a pas un problème. Un sacré problème. Est-ce qu'on ne devrait pas montrer à nos enfants ce que c'est qu'un couple amoureux, un couple chrétien, et qui a Dieu avec lui, et qui règle les problèmes aussi avec Dieu, et puis qui reste amoureux? La mise à part de temps pour le couple va justement permettre de rester amoureux, d'avoir ce moment pour nous où on se plaît à être ensemble. On se plaît à être ensemble. Le temps pour nous, le cœur à cœur, le temps pour nous, c'est du plaisir.
Amen.
C'est pas du règlement de compte à hockey choral.
À quoi?
À hockey choral, c'est un western. J'arrive avec ma Winchester. J'ai plein de munitions.
Hein?
Tu comprends? Et l'autre, il arrive, il a... munitions. Et là, on commence. Alors chérie, ça va? Oui, tout. Et toi? Oui, tout. On règle l'addition. Allez. Plus de cœur à cœur. C'est fini. Il y en a remu. Ah, terminé. Non. Cœur à cœur, c'est on se dit les choses dans l'amour parce qu'on est imparfait. D'accord? Et on essaye de voir comment améliorer. Alors bien sûr, si on a un arriéré comme ça, c'est pour ça que le pardon est important. Parce que si on a un arriéré comme ça, ça va prendre du temps. Ouais, mais c'est trop cool. Donc il faut régler la note, il faut faire le pardon, la repentance, et on règle la note et on repart sur une bonne base. Et puis on ne ramène pas à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on est tous les deux, on ne ramène pas les choses de derrière. Le passé est passé et toute chose est devenue nouvelle.
Amen.
Ça va permettre de se connaître de mieux en mieux. Ouais, je vous ai parlé la première fois, je vous ai parlé du couple qui se bonifie.
Amen.
On se connaît de mieux en mieux. On s'ouvre de plus en plus. C'est tout un art. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, on est tous des gens blessés. On est tous des petits êtres humains blessés par la vie. Donc, si on fait du cœur à cœur pour se re-blesser à nouveau, il n'y a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de se connaître, d'ouvrir son cœur, de dire, bon, je me rends vulnérable, parce que quand on raconte ce qui s'est passé dans notre vie qui nous a fait mal, on devient vulnérable. Quand on raconte tout ce qu'on nous a fait et qu'on n'a pas voulu jusqu'à maintenant le dire, soit par honte, soit par culpabilité, soit parce qu'on avait peur qu'on se serve de ça pour nous atteindre, que ça fasse des munitions pour l'autre, parce que le couple c'est devenu western à Okukura. Non, faut réaliser, je vais m'ouvrir. C'est ça le couple, l'intimité du couple. C'est des choses qu'on voit, on ne peut pas faire avec tout le monde. Mais c'est ça le couple. Le couple, c'est l'endroit où Dieu a prévu qu'on puisse s'aimer et être aimé. Qu'on puisse s'ouvrir à l'autre. Qu'on puisse avoir cette confiance. Parce que la confiance, c'est la base. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'intimité. S'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de couple. Donc il faut revenir à la confiance. Et la confiance, c'est « je m'ouvre ». Et donc ce cœur à cœur là, eh ben, c'est une façon. Et peut-être qu'on n'a pas l'habitude au départ, mais petit à petit, on commence à prendre de l'assurance et on commence à dire les vraies affaires, comme disent les Canadiens. Les vraies choses, les vraies affaires. On se parle. L'autre devient mon meilleur ami. J'ai pas besoin d'aller voir un collègue au boulot pour raconter ma vie. Et qui va finir en adultère dans quelques mois parce que notre couple sera devenu colocataire et puis il y a quelqu'un d'autre au boulot qui s'intéresse à moi. Comprenez? Non, il n'y a pas besoin de ça. J'ai mon intimité, j'ai mon couple, j'ai développé ma confiance, j'ai de l'intimité avec lui. Et on passe du temps ensemble et on est heureux d'être ensemble. Et ça se voit, ça se voit. Et les enfants le voient, les autres le voient. Amen. Un couple qui fonctionne. Un extraterrestre, quoi. Oui, un extraterrestre. Parce que les couples qui fonctionnent aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Donc un couple qui fonctionne, ça existe. De montrer aux jeunes que non, le mariage, c'est pas une affaire de ringardise. C'est quelque chose d'actualité, c'est quelque chose que Dieu a prévu, il ne s'est pas trompé. Ça marche.
Amen.
Si on sait le faire marcher. Amen.
Amen.
De mieux en mieux, de se connaître de mieux en mieux et de toujours rester connecté au fil du temps, de décennie en décennie. Vous avez des couples, ils sont ensemble, mais ils sont colocataires. Quand les enfants s'en vont, ils ont la cinquantaine, ils sont complètement paumés. Ils sont dans la maison tous les deux, c'est deux étrangers. Ben, ils se sont connus à 20 ans, mais il y a eu une évolution. Il y a eu les 30 ans, il y a eu les 40 ans, il y a eu les 50 ans. Mais je ne connais plus l'autre. Il n'y a plus de cœur à cœur, il n'y a plus rien. Et on a vu nos parents comme ça. On a vu nos parents, colocataires. Colocataires. Ils étaient ensemble, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ben oui, tu te demandes qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Et tu te dis, moi, jamais. Jamais. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu commences à prendre le même chemin. Ah, tu dis, oh non, je ressemble à mon père. Oh punaise. T'as hérité des mêmes paternes. Et ce qu'on va apprendre, c'est, on le verra avec les langages de l'amour, ce qu'on va apprendre, c'est un petit peu à réapprendre la lecture. C'est comme à l'école. Tu vois, on va réapprendre la lecture. Vous savez, on a chacun notre grille de lecture. Chacun notre appréciation des choses. J'estime que. C'est pas normal que. Non, pour moi, ça, c'est comme ça. Et pour l'autre, il dit, ah mais non, moi, c'est comme ça. On a chacun une grille de lecture qui vient, d'une part, de notre hérédité, mais aussi de notre enfance, de notre éducation, de ce qu'on a vécu, de nos expériences. On a chacun une grille de lecture. Et c'est pour ça, on le verra dans la communication, si on peut l'inclure, On verra dans la communication que c'est compliqué entre deux êtres humains parce qu'ils n'ont pas la même grille de lecture. Donc quand ils disent quelque chose, l'autre il l'interprète d'une autre manière. Et tu crois que tu as dit quelque chose, que l'autre l'a bien compris. En fait, l'autre ne l'a pas compris parce qu'il l'a interprété d'une autre manière. Bienvenue dans le club des humains. Et c'est comme ça que ça se passe. Et alors déjà, ça c'est compliqué entre deux gars. Mais alors tu rajoutes un gars et une femme. Et là, tu ne comprends plus rien. Et de temps en temps, tu vas avoir des réflexions du style, mais tu ne comprends jamais rien. Ouais, tu passes presque pour un bourricot. En fait, non. On n'a pas la même grille de lecture. C'est tout. Et des fois, on va dire un mot et on est obligé de se reprendre. Mais tu voulais dire quoi avec ce mot? Ah, mais tu supposes que c'est que ce mot-là. Bah, faut faire gaffe parce que des fois, tu veux essayer d'arranger les choses. Et finalement, c'est encore pire parce que l'autre, tu te dis, tu sais même pas ce que ça veut dire, ça. Alors là, franchement,
neuneu. Je te le dis.
Tu vois? Pas la même grille de lecture, tout simplement. Et le fait de faire du cœur à cœur, bah, va permettre justement de mieux se comprendre. De mieux se comprendre. Mais c'est toute une affaire de se comprendre. C'est toute une affaire. Combien de fois on s'irrite, combien de fois on s'énerve avec l'autre parce qu'on ne s'est pas compris. Je t'avais dit, il fallait que tu ramènes ça. Attends, tu ne me l'as pas dit. Mais si, je te l'ai dit. Ah non, tu ne me l'as pas dit. Et qui a vrai là-dedans? On ne sait pas. Ça a été dit. L'autre l'a interprété d'une autre manière. Tu vois? Tout à l'heure, c'était mon trésor quotidien et sur ma table de nuit là-haut. Enfin, le trésor quotidien de ma femme est sur la table de nuit de la chambre. Moi, je monte là-haut. Chérie, est-ce que le trésor quotidien, il n'est pas dans la chambre? Mais il dit oui, il est dans la chambre. Et ben, je lui dis, je vais te le descendre. Gentleman. Je descends. On arrive dans la voiture. Vous savez quoi? Je me fais engueuler. Parce que le trésor quotidien, il devait être dans la voiture. Ouais, le chemin était un peu compliqué. C'est-à-dire que moi, il part de la table de nuit, je dois l'amener dans la voiture. Ah oui, j'ai pas compris.
En fait,
il part de la table de nuit, je le descends en bas et après, tu fais ce que tu veux. Là, j'aurais dû deviner que le trésor quotidien devait aller dans la voiture. C'était tellement évident. C'était évident. Mais si je l'avais amené dans la voiture et qu'il n'était pas à sa place, mais pourquoi il est là, lui? Pourquoi t'as amené ça là? Bah oui. Bah, quoi que tu fasses, de toute façon, t'es mal barré. Et combien de fois ça arrive, ça? Tu fais les choses, tu crois les faire bien, et l'autre, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah, c'est pas ça que tu voulais. Mais non, t'as pas compris, c'est pas ça que je voulais. C'est fou. Hein? Mais c'est ça. En fait, il faut pas être surpris. On a tous une grille de lecture différente. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre de vue. Parce que dans 10 ans, ce sera encore pire, la grille de lecture sera encore pire. Dans 20 ans, encore pire. Dans 50 ans, on ne peut même plus se parler. De toute façon, on ne parle plus français. Moi, je parle d'autres langues. C'est même plus. Ensuite, de prendre du temps ensemble va développer la confiance et l'intimité entre vous. Ne pas avoir peur d'être jugé par l'autre, d'enlever la honte, ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Petit à petit, les mécanismes de défense, ils tombent. Amen. Et les mécanismes de défense, c'est ce qu'on a appris. Alors, il y a une grosse partie qu'on a hérité de papa, merci, maman. Non, on a hérité de tout ça. Il y a un brassage là-dedans. Et puis, il y a aussi ce qu'on a appris en mode survie. Hein, par exemple, le déni, par exemple, fait partie des mécanismes de défense pour nous protéger. Pour certains, quand ils ont des traumatismes, eh ben, il y a un mécanisme de défense qui se met en place, et puis ça peut être l'oubli. C'est quelque part dans l'inconscient, mais on a oublié, parce que c'était trop dur de vivre avec ça. Notamment quand il y a des viols ou des choses comme ça, on peut avoir ce genre de mécanisme. Mais il y a un tas de mécanismes de défense qui fait que, eh ben, quand on discute avec quelqu'un, si on n'est pas en confiance, si on n'a pas créé cette intimité, il va y avoir de la méfiance, il va y avoir des choses qu'on ne va pas oser dire. Il va y avoir plein de choses qui vont nous empêcher d'aller dans une certaine intimité. Vous comprenez ça? Et donc ça doit être brisé petit à petit pour pouvoir vraiment être heureux tous les deux. Adam et Ève étaient nus et n'avaient point honte. Ils étaient transparents. Vous voyez? Ça ne les gênait pas, ils n'avaient rien à cacher. Mais c'était avant le péché. Le péché est arrivé juste après.
Pourquoi ils ont péché,
Ah oui, on va leur dire. Donc, ça, c'est important de comprendre que passer du temps ensemble va nous permettre aussi d'enlever ces mécanismes au fur et à mesure. Ça va permettre d'éliminer au fur et à mesure les quiproquos, les frustrations, les petites blessures suite à des paroles, des actes, des comportements qui se seraient produits à notre insu dans la semaine. Parce qu'il y avait du monde, par exemple. Il y avait du monde, il y a eu deux, trois petites réflexions, ça nous a blessés, mais on ne va pas l'étaler devant tout le monde. Puis après, on était fatigués, on était se coucher, il y a les enfants, le lendemain, il y a le boulot. Bon, puis bref, voilà. On a envie de dire, bon, c'est pas grave, un de plus, pourquoi pas, un de plus, un de moins, on n'est plus là, ça après. Non. Ouais, ça va, pour l'instant, ça va encore. Merci. Et donc, non, en fait, justement, il faut éliminer au fur et à mesure. Tu vois, il faut dire, ben, tu vois, mardi, quand on a reçu du monde, à un moment, tu as parlé de moi, franchement, ça m'a mis mal à l'aise, quoi. Et non, ça, tu vois, je suis encore fragile là-dessus, c'est compliqué pour moi, ça. Et quelquefois, ben, on va découvrir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Ah, excuse-moi, chérie, ouais, ça, je savais pas, bon, ben, je ferai attention maintenant.
Voilà, il faut que l'on puisse comprendre et avoir compassion et miséricorde, ne pas en rajouter une couche.
Ouais. Et donc, ça, c'est important parce que si on ne fait pas ça, on va dire, oh, c'est pas grave parce que nous, on s'aime, donc c'est pas grave. Mais c'est pas vrai. C'est que petit à petit, tu vas rencontrer le phénomène des offenses. L'ennemi, c'est le spécialiste pour te blesser. Tu vois. Et il va dire, regarde ce que ta femme t'a dit. Regarde ce que ta femme a fait. Tu vois. Elle dit qu'elle t'aime, regarde ça. Pareil pour le mari, regarde. Il dit qu'il t'aime, mais regarde, regarde ça. C'est l'accusateur des frères. Donc lui, il est spécialisé dans l'accusation. Donc lui, il va toujours nous accuser. Donc faut faire très attention à ça. L'offense, c'est quelque chose d'insidieux. Vous savez, c'est mettre un piège sur ton chemin, et ce piège-là correspond à des blessures que tu as dans ton cœur et que l'ennemi connaît. Donc c'est insidieux. Et ça va faire mal parce que c'est des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et il suffit, comme une blessure physique, il suffit que ce n'est pas encore refermé, tu vois, et si tu appuies là, tu vas le sentir, ça va te faire mal. Donc il faut faire attention à ça. Se voir une fois par semaine, ça permet aussi de régler des petits quiproquos et dans la bienveillance. C'est ça qui est important, dans la bienveillance. Chérie, excuse-moi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le pardon, c'est pas une fois, c'est tout le temps. Chérie, excuse-moi, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu, c'est bien, ok. Et si c'est des petites choses, ça empêche que ces petites choses-là s'accumulent et deviennent des grosses choses, difficiles à régler. Quand c'est une petite chose, et qu'on est dans ce climat où on se pardonne mutuellement, ça va. Mais si on accumule, à un moment, on dit, ouais, ça va. Parole. Et ça ne marche plus. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, ça va vous permettre de répondre de plus en plus aux besoins de l'autre, en se posant mutuellement la question suivante. Qu'aimerais-tu voir changer en moi pour que tu sois encore plus heureux, heureuse dans notre mariage?
Ah, ça j'aime bien.
Répondre aux besoins de l'autre. Tu vois? Ça, c'est ça aussi l'objet du cœur à cœur. C'est chérie, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Alors, évidemment, bon, ça va peut-être pas... Hein? On n'est pas des magiciens. Mais au moins, de savoir dans quel domaine je pourrais m'améliorer pour que l'autre se sente mieux. Vous vous rappelez de la définition de l'amour de Bonhoeffer, hein? C'est de mettre l'autre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il soit une personne épanouie. Et c'est mutuel. Et c'est là où on a besoin d'avoir un cœur ouvert, de se rendre transparent. Parce que là, on annonce ses besoins. J'aimerais que, chérie, tu sois un peu plus douce avec moi. J'aimerais, chérie, que tu parles avec moins d'agressivité. J'aimerais, chérie, que... J'en sais rien. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut améliorer. Et qu'on doit être capable d'entendre. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ. On n'est pas encore arrivé là. Donc on a besoin de changer. Et les changements que l'autre te demande, c'est votre couple. C'est cette personne-là qui a besoin. Parce qu'une autre personne demanderait sans doute autre chose. Et tu aurais à travailler dans un autre domaine. Mais là, c'est parce qu'on est unique. C'est parce que là, mon puzzle vient s'imbriquer dans le puzzle de l'autre et que ben, il faut que je travaille. Dans cette pièce-là, elle n'est pas assez usinée. Seigneur, il faut que tu m'aides. Seigneur, fais en sorte que ça s'usine. Mais je te donne mon accord. Je suis d'accord pour changer. Parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Mais encore faut-il qu'on soit d'accord. Mais pour qu'on soit d'accord, pour qu'on change, pour qu'on puisse devenir cette une seule chair dans la volonté de Dieu, une seule chair, comme ce puzzle qui se marie. Là, encore faut-il savoir qu'est-ce que je dois changer. Encore faut-il connaître les besoins de l'autre. Encore faut-il que l'autre parle, exprime. Vous voyez tout le boulot qu'il y a. Il y a du taf. Si tu dis, chérie, qu'est-ce que tu voudrais que change en moi pour que tu sois mieux? Oh non, rien, tout est parfait. Tu sais, le gros russe, le Cro-Magnon, tu sais, bien le cœur, bien orphelin, qui a toujours rien demandé à personne, qui se débrouille toujours tout seul. Non, ça va très bien, tout va bien. Il n'est pas transparent, le gars. Le gars, il ne se rend pas vulnérable. Et lui, il a besoin de rien dans la vie, c'est incroyable, il a besoin de rien. À la limite, l'autre va se poser la question, mais tu serais tout seul, tu serais bien. Non, dis-lui que tu as besoin, à ta femme, dis-lui que tu as besoin d'elle. Mouille un peu le maillot. T'as dit, chérie, ouais, mais j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de... Je sais pas, moi, exprime-toi. On a tous des langages de l'amour, ok? Et on le verra. Peut-être pas ce soir, on le verra. Les langages de l'amour, il faut les connaître. Parce que c'est comment l'autre se sent aimé. Et on n'a pas tous le même langage de l'amour. Donc si l'autre ne s'exprime pas, mais comment je vais savoir? Impossible. Impossible, c'est trop subtil. Il faut qu'on s'exprime. Et il faut que je donne la parole aussi à l'autre. Il faut que je l'aide, chérie. Hey, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu sois mieux? Et puis quand je dis ça, il faut que j'accepte aussi que je vais changer. Tu comprends? Il ne faut pas avoir un problème d'orgueil. Parce que si l'autre dit, mais chérie, il faudrait que tu fasses, ça serait bien que tu fasses comme ci, comme ça. Quoi? Mais je le fais déjà, moi. Mais qu'est-ce que tu me demandes, là? Tu comprends? Il faut marcher dans l'humilité. Il faut dire, ok, chérie, ben, je vais essayer de m'améliorer. Essayer de faire encore mieux. Et puis c'est sans doute ce que tu fais, malgré ta bonne volonté, elle ne le voit pas. Elle ne se sent pas aimée, ou il ne se sent pas aimé. Et tout ça, ça parle, tu sais, on est les seuls à avoir hérité de ça. Il faut s'en servir. C'est le langage. Les animaux, ils ne se parlent pas. Moi, quand je regarde mon chien, il ne parle pas. Il fait mouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Mais il faut se parler avec les bonnes choses, avec les choses utiles, les choses constructives, les choses qui vont nous faire avancer. Amen.
Amen.
Répondre aux besoins de l'autre. C'est fondamental parce que c'est ce qui donne du sens à notre couple. Si on ne répond pas aux besoins de l'autre, bien sûr qu'on a Dieu pour répondre à nos besoins, mais on a aussi des besoins physiques, des besoins un peu plus charnels. On a été fait comme ça, on est des êtres d'émotion et on a un langage d'amour et on se sent aimé. C'est de l'émotion. Comment tu te sens aimé? Ça va? Oui? Prendre du temps pour notre couple, c'est une décision délibérée. D'accord? Là, je vous ai donné plein d'arguments pour dire voilà l'intérêt de prendre du temps ensemble. Maintenant, retenez bien ça, c'est une décision. Ça ne se fera pas tout seul. Il n'y a pas l'emploi du temps qui va s'inscrire tout seul, soirée avec ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit une décision. À deux, on trouve du temps. On trouve une heure. On se bagarre. On ne cède pas. Un témoignage comme ça d'un couple, une fois, dans une soirée comme ça, ils ont témoigné, ils ont dit, nous, on a eu 6 enfants. 6 enfants. C'était du boulot, 6 enfants. Je ne sais même pas comment on fait. Mais ils témoignaient, ils disaient... Il y a une chose qu'on n'a jamais lâchée, c'est le cœur à cœur. Et si nous, avec 6 enfants, on était capable de trouver du temps pour notre couple, alors ça veut dire que tout le monde peut trouver du temps pour son couple. C'est vraiment une décision. Si on commence à dire, ah, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, ah, moi, je peux pas laisser mes petits loups, ah, non, moi, j'ai pas confiance, ah, non, mais, ok. Mais tu vas y laisser des plumes, Tu vas, ton couple, ça sera un couple de colocataires. Je te le dis. Alors, la nécessité de programmer ce temps pour notre couple. Donc, il faut le programmer. Et deuxièmement, il faut le protéger. Parce que il y aura toujours des choses pour venir contrecarrer le rendez-vous qu'on a pris. Plus importantes, soi-disant, des choses plus importantes. Ah chérie, il y a ci, ah chérie, il y a ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, c'est pas grave, on annule, on fera ça plus. Et puis la semaine d'après, il y a encore autre chose. Et puis ça ne se fait pas. Il faut le programmer, définir un jour, définir une heure dans la semaine, être inventif, aller au resto, aller au ciné, faire une balade sur le front de mer, la randonnée, je ne sais pas quoi. Passer du temps tous les deux. Tous les deux. Pas avec les enfants. Pas avec les amis. Tous les deux. Le plaisir d'être à deux. D'accord? Tous les deux. Et on parlera de nous. Ça va changer un peu. On parle pas des autres. Vous avez remarqué comment c'est facile de parler des autres?
Même à deux, parler des autres.
Toujours, on a toujours beaucoup de choses à dire sur les autres. Ah, t'as pas appris? Tu sais pas ce qui s'est passé pour un... Attends, je vais te raconter, c'est croustillant. Oh, vous voyez, raconte-moi. Par contre, pour nous, pour ouvrir notre cœur, ah, un petit peu plus difficile. C'est un moment de plaisir, un moment récréatif pour le couple, un moment où nous arrêtons le tourbillon de la vie, une heure et demie, on arrête, on fait une bulle, on fait une pause dans ce tourbillon de fou, dans ce rythme de fou. On prend une heure pour notre couple. Parce que notre couple est important. Parce que notre couple, c'est une personne qui doit vivre. Et de ce couple-là, de la santé de ce couple-là, dépend tout le reste. Eh ouais. Donc si on n'a pas une heure et demie dans le nombre d'heures qu'on a toute la semaine, ben, y a un problème. Ça veut dire que notre couple n'est pas important. Parce qu'on met du temps là où c'est important. Donc si tu n'as pas une heure et demie pour ton couple, mais c'est que ton couple n'est pas important. Alors tu vas faire plein de choses, tu vas travailler, tu vas regarder la télé, tu vas trouver plein de choses beaucoup plus importantes que ton couple.
C'est vrai ça.
Ben oui. C'est un moment où on arrête le tourbillon de la vie pour souffler un instant, pour reprendre des forces, pour être ensemble, parce que les combats vont arriver, parce qu'il y a un ennemi spirituel aussi qui veut notre mort, parce que la vie est difficile, parce qu'il y a les enfants à gérer, parce que c'est pas facile, il y a la famille, il y a la belle famille, il y a des tas de... Faut y aller, hein, il faut prendre des forces. Et les forces, c'est à deux. Parce que quand on est fort tous les deux, ben là, je peux vous dire qu'on peut affronter le monde entier. Mais quand le couple est fragile, eh bien alors là, la moindre chose peut faire péter le couple. Mais quand le couple est solide, on est ensemble chérie, on est bien ensemble, on prend des forces ensemble, et on pourra affronter le
monde. Ah oui, je vais jusqu'au bout du monde avec toi.
Amen, t'as raison. Se donner le droit de prendre du temps pour notre couple. Est-ce qu'on peut se donner le droit de prendre du temps pour notre couple? Posez-vous la question. Et surtout, conserver du sens à notre union. Pas seulement rester ensemble pour les enfants, pour la maison ou pour le paraître. Non, continuer à garder du sens pour notre couple. Chérie, on est bien ensemble. On a fait le bon choix. Amen. Et si là, à l'instant, je devais renouveler mes vœux, je les fais tout de suite pour toi. Amen. Et tu dis ça au mari? Mais le gars, il monte sur son cheval. C'est le héros. Direct. Fabienne, tu dis ça à Alain. Mais le gars, il retrouve ses 20 ans, il ressort sur le cheval. Il dit, c'est moi.
Et là, il fait le cri du cheval.
C'est moi. C'est Zorro. C'est pas un zéro, c'est un zéro ton gars.
Et Dieu parla à un âne.
Il est nécessaire de se donner les moyens de mettre cela en place. Surtout ne pas penser que cela est impossible. C'est pas vrai. Alors, j'enlève que l'enfant est malade, qu'il y a un problème. Bon, on a bien compris, il y a des urgences dans la vie. Et ça peut tomber pile poil le jour où on avait prévu. Ok, on est d'accord. Mais ne faisons pas d'une exception une généralité. Ok ? Il y a la famille, il y a les amis. Il faut trouver peut-être une nounou, peut-être une sœur dans l'église, qui est une jeune sœur, tu vois, en qui on a confiance. Je ne sais pas, il faut réfléchir. Quelqu'un de confiance à qui on peut donner nos enfants. Pour une soirée, pour une heure et demie. Ok ? Ça se fait, ça existe. C'est un investissement indispensable pour la santé morale, physique, spirituelle de chacun des conjoints. C'est une question de vie ou de mort pour notre couple. Amen !
Amen.
Ah, si j'ai pas été convaincant, j'y serai jamais. Vous avez compris ce que c'est ? Il faut investir pour notre couple, dans le temps. Il faut le protéger. Il faut le protéger parce que là, il y a un tas d'affaires qui arrivent, tu vois. Alors, il faut le mettre en priorité par rapport à toutes les autres activités. D'accord ? Ça, c'est important. Ça, c'est mon couple. Mon couple, il est important. Là, il y a une heure et demie pour mon couple. C'est mon couple en priorité. Amen ?
Amen.
Ok ? Donc, les copains, pas ce soir. Ouais, viens, écoute, on a prévu un truc et tout. Non, non, non. Ce soir, c'est ma femme. Ah oui ? Ce soir, c'est ma femme. Et la soirée entre nana, pareil. Ah, ce soir, c'est mon homme. C'est mon Zorro. Vous voyez la valorisation ? Tout d'un coup, moi, j'entends ça, je dis, oh, pas n'importe qui, mais... Protéger des interruptions, les amis, la famille, le téléphone, hein ? On a le rendez-vous, là. On va pas commencer à faire attendre l'autre. Parce que j'ai le moment au téléphone. Et puis, ça dure pas un quart d'heure. Ça fait une heure que je l'ai au téléphone. Et l'autre, il est là, on y va comment ? On a réservé. Il est énervé, il rentre dans la voiture, il est énervé, on va passer une belle soirée. Ah ouais, et le gars il était énervé. J'en ai marre de ta mère, une heure au téléphone, moi j'attends. En cas d'imprévu, on prévient notre conjoint pour décider ensemble. S'il y a un problème, ok ? Bah, on en parle. On prend pas tout seul la décision. Ah oh, chérie, pour ce soir, non, on fera pas notre rendez-vous hein, parce que il s'est passé quelque chose là. Ben, on annule pour ce soir. Et ben l'autre, moi j'ai mon mot à dire maintenant ou quoi ? Non, j'ai décidé. Ah non, on n'est pas des dictateurs. S'il y a un problème, on en parle. S'il y a un accident pour le resto, ça va être un peu compliqué ce soir. Prendre soin de l'autre. C'est se sentir écouté, compris et aimé. C'est ça, prendre soin de l'autre. Quand on va au resto, on écoute l'autre. Eh bien, écouter l'autre, c'est de l'amour. Parce qu'on n'a pas envie d'écouter. Eh ben, je vous le dis, on n'a pas envie d'écouter.
C'est vrai ?
Si, on a envie d'écouter. On a envie d'écouter 17 secondes. Chrono. C'est toi qui parles. Hop, ah, c'est à moi. La patience, l'intérêt pour l'autre, ce qui est important pour l'autre devient important pour moi. C'est ça là, l'amour. Ce qui est important pour l'autre devient important pour moi. Ça c'est de l'empathie, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. C'est le contraire de l'égoïsme. L'égoïsme c'est, bon vas-y parle, dis ce que tu as à dire. C'est bon, t'as fini ? Bon, moi j'ai autre chose plus importante à dire. Non, pas ça l'amour. L'amour, c'est écouter.
J'ai
écouter.
Trop parlé, il m'a dit, mais t'es un petit Martin, toi ?
Moi, j'ai appris avec Erlande. J'ai appris à connaître, alors elle ne travaille plus maintenant, mais avant, moi, je connaissais la vie d'Optique de Bourbon. Je connaissais la vie des gens de l'Optique de Bourbon. J'étais un spécialiste. Carmelita, tous les gens, je connaissais. Le problème, je connaissais. Parce que quand Erland arrivait le soir, tu vois, elle arrivait avec son dressing qui sortait de la voiture, les paires de chaussures, les machins, tout ça, elle arrivait avec son dressing. Elle n'avait pas posé le dressing et elle me disait, chérie, il faut que je te raconte quelque chose. J'ai dit oui. Et elle a encore tous ses bagages, elle avait encore ses chaussures, ses machins, tout ça. Faut que je te raconte quelque chose. Là, tu comprends que c'est vachement important. Alors là, je te dis, aujourd'hui, Carmelita, tu sais ce qui s'est passé ? Non, ma chérie, je t'écoute. Et là,
et tu m'aides pas.
Et là, et ça y va. Très intéressant. Tu vois, des histoires de nana. Très intéressant. Alors surtout, toi, t'es occupé, mais c'est pas grave ce que tu fais, ça compte pas. Tu peux arrêter. Alors donc, tu... Mais t'es là, tu dis, ok, t'apprends à écouter. T'apprends à écouter. Prendre soin de l'autre, se sentir écouté, compris, aimé. Découvrir le langage d'amour de l'autre. Les langages d'amour. Ok, ça, c'est Gary Chapman qui a mis ça à jour. Il a découvert que l'être humain avait 5 langages d'amour. D'accord ? Donc, on va découvrir le langage d'amour de l'autre. Pourquoi ? Parce que le langage d'amour, c'est la façon dont je me sens aimé. D'accord ? Donc, il y en a 5. Imaginons, moi j'en ai un, ma femme en a un autre, et elle fait pas, c'est pas le même que moi. Parce qu'en général, c'est pas le même. Et par contre, moi je veux lui faire plaisir, parce que j'aime ma femme et tout ça. Donc, je fais le plaisir, mais comme je sais pas. Je lui fais plaisir comme moi, je pense qu'on se fait plaisir. Et puis ça marche pas. Je comprends pas. J'ai dit, t'es, je fais ci, je fais ça, t'es incroyable. Elle est pas contente. Elle est pas normale. Il y a un problème. Non, t'as pas compris. Elle a un autre langage d'amour. Donc ça marche pas. Ouais. Je vous donne un exemple. Bon. Votre femme, elle aime pas les cadeaux. Et vous, vous aimez les cadeaux. Donc, forcément, comme vous ne savez pas qu'il y a des langages d'amour, vous dites, tiens, je vais lui offrir un cadeau, elle va être contente. Bon, ça vous fait mal à la panse, parce que vous avez acheté des fleurs, par exemple. Et les fleurs, le truc qui coûte cher et puis qui ne dure pas longtemps. Mais vous dites, non, c'est pas grave, je lui fais plaisir. Donc, hop, vous sortez le billet, ça fait un peu mal, mais bon, c'est bon. Vous donnez, chérie, regarde, oh, les fleurs. Elle dit, ouais, ben posez-la, je vais m'en occuper tout à l'heure. Hein? J'ai mal à ma panse. Eh oui, c'est pas son langage d'amour. Donc il faut apprendre à découvrir le langage d'amour. L'aspirateur, ça marche bien pour les services. Tu vois, les paroles valorisantes. Quelle heure il est? Parce que ouais, faut pas qu'on déborde trop. Ah bah non, ça va, on a encore un petit quart d'heure. Ah putain, je suis mieux que je pensais. Alors ça, c'est un langage d'amour. D'accord ? Ça s'appelle les paroles valorisantes. Encourager son conjoint. Lui dire je t'aime, tu es formidable. Faire des compliments, tu es magnifique. Dire du bien de son mari ou de sa femme aux autres, devant lui ou elle. Alors, il est évident que dans les langages d'amour, on est bien d'accord, la plupart on va trouver du plaisir. Hein ? Qui n'aime pas recevoir des paroles valorisantes ? Hein ? Mais là, on parle de qu'est-ce qui fait qu'on se sent encore plus aimé. C'est-à-dire qu'il y a un chouïa de plus quand on utilise les paroles valorisantes. Et souvent, ça a un rapport avec l'histoire de la personne. Si la personne, elle a été dévalorisée pendant son enfance, hein, c'est le classique, hein, le papa qui dit, de toute façon, t'es un bon à rien, de toute façon, t'arriveras jamais à rien. La maman qui ne fait pas de compliments non plus, enfin, le gars qui devient vraiment orphelin de compliments, et puis en fait, qui a vraiment l'impression d'être un bon à rien. Mais lui, il y a de grandes chances que petit à petit, il développe un besoin de paroles valorisantes, plus que les autres. Il faudra régulièrement lui en mettre une couche. Et même des fois, tu vas trouver ça un peu agaçant. Parce que la personne va poser des questions. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que j'ai bien fait ça ? Est-ce que c'est... Ben oui, t'as bien fait. Non, t'es sûr ? C'était bien ? Oui, c'était bien. Je m'entends. T'es sûr ? C'était vraiment bien ? Oui, c'était très très bien. Ah oui, parce qu'en fait, elle a besoin d'entendre des paroles qui la valorisent. Alors, vous imaginez dans un couple où ça n'a pas été bien analysé et que on a des patterns qui n'ont pas été réglés et que en fait, il y a de la frustration, il y a des choses qui ne sont pas terribles et tout ça. Et la femme n'arrête pas de lui dire « Mais ça, c'est même pas, mais tu sais même pas faire ça. Tu n'arrives même pas à faire ça. » Imaginez un petit peu comment ça peut être dramatique. Donc c'est important de connaître les besoins de l'autre pour, au contraire, lui dire régulièrement, de lui dire « Chérie, génial ». Et c'est pas flatté, hein, mais c'est qu'on sait que l'autre en a besoin plus que la normale. Mais attention, notre tour va venir aussi. Pas qu'on croit que nous, on n'a pas de problème, c'est les autres qui ont des problèmes. Non, on a chacun un langage d'amour dans lequel on se reconnaît, on a plus besoin de ça. Ça va? Alors, il n'y a pas que les paroles valorisantes. Le deuxième, les cadeaux. On a parlé tout à l'heure. Offrir des fleurs, donner des petites choses, acheter un présent, avoir une attention. Donc, il y a certaines personnes, le fait de recevoir un cadeau, eh ben, ils se sentent aimés. C'est comme ça. Reçoivent un cadeau, ça fait waouh, waouh, waouh. Bon, ma femme, je crois qu'elle a les 5 langages d'amour. Mais normalement, on devrait en avoir un qui est au-dessus des autres. Parce que, et avant, si tu lui donnes un cadeau, c'est « waouh ». Mais si tu lui donnes des paroles valorisantes, c'est « waouh ».
Si tu l'emmènes au restaurant,
« ah, mais c'est « waouh ».
Et surtout, moi, c'est pas un langage d'amour. Tu achètes l'aspirateur ou tu achètes un ordinateur pour la maison. Ça, c'est la maison. Un frigidaire.
Ah ouais, ça a coûté 1000 balles, mais c'est pas grave.
Mais non.
C'est une blague.
Ça, c'est pour la maison.
Ah oui, attends. Oui. Alors, troisième langage d'amour, le toucher physique. D'accord? Donc là aussi, vous avez des gens, c'est un besoin, ils ont vraiment besoin, ils se sentent aimés quand il y a un toucher physique. Prendre la main de l'autre, le serrer dans ses bras, l'embrasser quotidiennement, tous les jours. Alors tu vois, ça c'est un langage d'amour. Et donc c'est le prendre dans la main, pas par la main, dans la rue, c'est l'enlacer, tu vois. Mais si le gars, il n'a jamais eu de contact tactile, souvent c'est comme ça, hein, dans sa famille, parce qu'il n'y avait pas de câlin à l'époque, il n'y avait pas de santé, il n'y avait pas de choses tactiles, ben c'est tout nouveau pour lui. Donc il va falloir qu'il apprenne le langage d'amour de sa femme. Ensuite, on a les moments de qualité. Consacrer du temps à l'autre en lui donnant la priorité, l'autre se sent important. Alors ça rejoint le cœur à cœur, si c'est son langage d'amour, c'est sûr que le cœur à cœur, ça va être très très important. Mais c'est un langage d'amour d'avoir du temps pour la personne où elle se sent importante dans le sens que là, il n'y a qu'elle. C'est pour elle. Elle se sent aimée parce que là, il est là pour moi. Il n'est pas là pour les autres, il n'est pas là pour son travail, il n'est pas là pour je ne sais pas quoi. Il est là pour moi. Donc ça, c'est les moments de qualité. Et enfin, le dernier, c'est les services rendus. Servir l'autre de façon pratique. Arrêter ce qu'on est en train de faire pour satisfaire l'autre. Alors là, ça c'est excellent. Quand quelqu'un a ce langage d'amour-là, alors là, elle a besoin, parce que souvent il faut qu'on soit disponible tout de suite, immédiatement, à 100%. Donc elle a besoin, et toi tu lâches ce que tu es en train de faire pour la satisfaire. Alors là, c'est le Graal. Là, je te dis, la soirée, t'es tranquille.
Mais c'est pas tout le monde comme ça.
Ah non, non, mais c'est pour le langage d'amour. Pourquoi? Parce que l'être humain, surtout le gars, il ne fonctionne pas comme ça. L'être humain, lui, c'est une chose à la fois. Comme un petit pépère. Une chose à la fois. Il est organisé, il fait une chose à la fois. Et donc, quand il est dans sa case, quand il est en train de faire ça, il ne peut pas faire autre chose. C'est comme ça. Il ne peut pas faire autre chose.
Ce sont les hommes en général.
Et la femme dit, chérie, j'ai besoin de toi. Et lui, il est là. Mais, je ne sais pas, il dit, je ne peux pas. Il est coincé dans sa case. Il ne peut pas. La femme ne comprend pas. Elle fait, mais non, mais t'es là. Mais viens me filer un coup de main. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas fini. Attends, laisse-moi finir. Et là, ça l'énerve, la femme, parce qu'elle a fait, mais viens maintenant, tu finiras après. Ah, je ne peux pas. Alors, c'est terrible. Et là, il faut que tu comprennes que si ta femme, c'est le langage d'amour, eh ben là, tu dis lâche. 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 Lâche que tu fais.
Tu arrives.
Ah oui, j'arrive. D'accord, oui, j'ai un peu d'expérience. J'arrive, je lâche mon calbotis, je lâche mon truc. Combien de fois tu m'as dit, chérie, tu as fait. Je dis, oui, j'ai fait. Mais ils savent pas, les femmes savent pas que ça coûte pour un gars. Il est obligé de lâcher, il est obligé de dire ah, je veux lâcher. Ok. Ah, mais parce que la femme, elle peut faire plusieurs choses à la fois. Donc elle s'imagine que c'est pareil pour toi. Tu fais ton truc, là tu viens 2 secondes, tu repars à ton truc. C'est facile, c'est comme ça qu'on fait. Et le gars, il sait pas faire ça, lui. Il dit, attends, je classe mon dossier, je ferme mon dossier. Ah, maintenant, je suis avec toi, je suis disponible. Mais c'est fini maintenant, c'est trop tard, c'était tout à l'heure, j'avais besoin de toi. Donc, rendre service à l'autre, faire quelque chose que l'autre n'arrive pas à faire, aider l'autre dans ce qu'elle fait parce qu'elle est fatiguée. Ah, ça, ça aussi, ça c'est des points aussi, tu vois. Il y a le compte en banque sentimental, les points. Tu vois. Alors là, là tu n'es pas en déficit, je peux te dire que t'as de la marge. Ah ouais, t'es fatigué, tu fais les choses pour elle, tu ramasses le linge, tu plies le linge et tout ça. Oh, oh, t'as rangé mon linge. Oh, mais quel mari formidable que j'ai. Le linge, extraordinaire le linge. Moi j'ai découvert la puissance du linge. Le linge, je savais pas que le linge avait une telle puissance, tu sais. Je comprenais pas. Moi le linge c'était pas mon truc, tu sais. Le linge il restait dehors et puis il pleut, moi je sais pas encore. On va le ramasser quand il sera sec. Ça c'était au début. Je comprenais pas, elle était malheureuse. Il va puer le linge, il va sentir mauvais. Le linge sent mauvais. Alors après tu vas sentir le linge. Effectivement. Pas terrible. Donc tu vois que c'est important pour elle, tu vois. Alors là, j'ai dit, mais là, évidemment, j'étais à la bonne école. J'ai dit, il faut que ça change. Comment je fais? Alors, je rentrais à la maison, tu vois, et à l'époque, il y avait les fils, on les voyait de la maison. J'ai dit, ah, elle a étendu. Ok, je vais aller voir si c'est sec. Tu vois, c'était un sport, hein, tu vois. Sec. Alors, si c'était sec, hop, je pliais. Et le soir, je disais rien. J'attendais le petit truc, tu vois, est-ce que ça, c'était le Graal, tu vois. Elle arrive, elle fait, oh, je suis fatigué. Oh, j'ai encore le linge à ramasser, j'allume la lumière. Oh, oh, chérie, hey, t'as ramassé le linge? Ben oui, j'ai ramassé le linge. Oh, Seigneur, oh, tu m'as donné un mari. Presque tu te crois, tiens, va pas tomber dans un coffre, tu sais. Alors là, c'était important, je dis, mais quel pouvoir dans le linge? J'ai dit, oh là. Ça marchait à tous les coups le linge. Moi, je vous le dis les gars, si vous savez pas le linge, c'est un pouvoir le linge. Oh, ah quelle blague. Ah on vit des belles choses en couple, moi je vous le dis. Ah la vache. Alors, dernière chose, très très importante, parce que c'est. Pourquoi c'est important? Parce que c'est pas dans notre nature. D'accord? Il faut se connaître un petit peu. On n'a pas une nature à positiver. On n'a pas une nature à valoriser les autres. Ouais. Tu comprends? C'est pas notre nature. On a une nature, je vais vous dire, à regarder ce qui va pas. Tu vois? T'as fait 10 choses, non, t'as fait 9 choses de bien sur 10. L'autre va dire, et la dixième? Comment ça se fait? Un problème pour la dixième? C'est garanti. C'est... Et puis toi, tu étais content, parce que t'as fait les 9. Ah, t'es super content, tu vois, tu te dis, ouais, ma femme va être contente, tu sais, j'ai fait les 9, tu vois. Et là. Et là, tu te dis, c'est pas vrai, mais non, elle voit pas, c'est pas vrai. Tu sais pas, les 9, là, combien ça m'a coûté? Et ça, c'est doux.
C'est la nature. Hein?
C'est incroyable. Vous avez 5 personnes devant vous, il y en a 4 qui disent « t'es génial comme gars ». Il y en a un qui dit « moi je trouve que t'es pas terrible ». Et là, quoi il dit ça, elle? Quoi il dit ça? C'est tout d'un coup, tu es dans un film où tu penses que tout le monde t'aime, tout le monde, 100% des gens ils t'aiment, 100% ils trouvent que t'es génial. Parce que là, c'est pas les 4 qui t'ont dit « c'est bien ce que tu fais, que tu vas regarder ». C'est celle qui a dit que c'était pas bien. Et puis ça va taronner, mais pourquoi? Pourquoi elle dit ça? C'est ça, la nature humaine, c'est ça. Et donc, on est contaminé par ça. Tu vois? Donc, ta femme a fait un super repas, elle était contente de te faire à manger pour toi, parce que si tu n'étais pas là, elle n'aurait pas fait à manger. Tu vois? Donc, elle a fait à manger pour toi. Et toi, mais tu vas faire la petite réflexion, hein, du style, ouf, pas trop de goût ton truc. Il manque si tu vois. C'est garanti. Tu vois. T'as fait un travail à la maison. T'as mis une journée pour le faire. Tu vois. Mis une journée pour le faire. Elle arrive. Ah, un petit peu de travers, non? J'ai un petit peu de travers quand même, non? t'as mis le niveau et tout, tu vois, t'en as bavé, quoi, tu vois, t'as passé ta journée là-dessus. Mais chérie, prends le niveau, va voir. Tu sais, parce que pourquoi tu t'attendais à ce que... Waouh. C'est pas moi, ça. Tu peux te travers, là. C'est ça. Allez, Thierry Mann, c'est ça. Et donc, à partir de là, tu dois comprendre qu'on a un sacré problème à valoriser l'autre. Oui. Et ce qui se passe, c'est que, bon, au début du mariage, non, tu es encore dans Eros, un peu Eros, bon, ça va, tu continues un peu à valoriser l'autre. Mais très rapidement, tu valorises plus l'autre. Je m'engage à mettre en premier tes qualités et à prier avec toi pour les choses qui doivent changer. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que tu as des qualités, je ne les ai pas oubliées, on doit s'améliorer, mais tes qualités, je vais toujours les mettre en avant. Parce que des fois, quand les couples vont mal, je leur dis, mais quand tu l'as rencontré, il était comme ça, il était naze, c'était un naze. Il n'a pas de qualité, il n'a rien, rien pour lui. Mais c'est toi qui as un problème, tu as choisi un naze. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on ne voit plus les qualités, on voit que les défauts. On voit que les défauts. Et je dis, mais ses qualités. Ah, mais je n'ai pas envie de le voir. Il sait pas ce que c'est que l'âge. Ton comportement dans ton couple, c'est la valorisation de l'autre. C'est ça qui va faire qu'un couple va être en bonne santé. C'est que tu vas continuer à le valoriser. Amen. Tu vas continuer à la valoriser. Amen. Pour ses qualités. Parce que les qualités, ils n'ont pas disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à vivre ensemble, on voit plus les défauts. Forcément. Avant, on se voyait que pour les bons moments. Donc tu voyais toutes ses qualités, tu ne voyais pas ses défauts. Tu n'as pas passé assez de temps avec lui pour pouvoir avoir tous ses défauts. Tu en as vu un petit peu. Tu vois? Mais maintenant, à vivre avec lui 24 heures sur 24, 365 jours, mais tu vois tous les défauts. Et comme ça t'énerve, bah tu dis, mais tous les jours tu rappelles les défauts. Tous les jours tu rappelles ses défauts. Mais bien sûr, mais au lieu de valoriser, c'est comme ça que tu maintiens ton couple en bonne santé. C'est en valorisant. Tu as un choix à faire. Bien sûr que tu peux décider, valoriser ou dévaloriser. Mais on ne se rend pas compte, on dévalorise l'autre. On dévalorise l'autre. On montre à l'autre, et tu ne le sais peut-être pas, tu as ça comme défaut, et ça, c'est pas... Tous les jours, t'es heureux, tu te dis, je rentre à la maison, ça va être chouette, ma femme va encore me montrer tous mes défauts, oh, ça va être génial de rentrer à la maison. Et t'as vachement envie de rentrer à la maison, quoi, tu vois, parce que tu sais que ta, tu vois. On ne se rend pas compte, mais c'est un choix, c'est une décision. Je fais toujours la même blague. Tu fais la blague, tu as rencontré ta chérie à 20 ans et tu as dit à ta chérie, chérie, épouse-moi. Tu vas voir, tous les jours, on va se rappeler nos défauts. Tous les jours, je vais te dire tes défauts. Ça va être génial. Viens, allez, on se marie. C'est fou. Jamais tu épouses un mec comme ça. Tu te barres en courant. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Tu te barres en courant. Ça, c'est un thérapeute qui témoigne. Pendant les 15 premières années de ma vie conjugale, je ne voyais que les défauts de ma femme et mes besoins. Depuis plus de 15 ans maintenant, je regarde mes défauts et les besoins de Teresa. Et notre vie de couple a été transformée.
Amen.
Ça, il faut prendre exemple. Tu vois. Maintenant, je regarde à mes défauts et aux besoins de l'autre. Mais là, tu es transformé. Là, tu avances. Tu vois. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait qu'à ses besoins et il regardait aux défauts de l'autre. Mais il y a un problème. Tu ne peux pas avancer comme ça. Donc ça, c'est vraiment biblique, ça, tu vois. Ça, c'est vraiment la paille et la poutre. Tu vois. Je regarde à mes défauts et je regarde aux besoins de l'autre. Donc là, je regarde mes défauts pour être transformé et le don de soi, je regarde les besoins de l'autre. Mais là on débouche. Tu vois, et il le dit lui-même, notre vie a été transformée.
Amen.
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 Le piège, c'est de développer un comportement réactif. Porter toute notre attention sur les défauts de l'autre. Cette façon de faire nous éloigne l'un de l'autre et ne permet pas à l'autre de se sentir aimé. Évidemment, si tous les jours tu lui rabâches ses défauts, il ne va pas trop se sentir aimé, hein, je veux dire. C'est clair. Le défi. Et de développer un comportement proactif. Le principe est de se concentrer sur les besoins de l'autre. Cette attitude nous rapproche de l'autre parce que chacun se sent aimé. Et quand on se sent aimé, on a envie d'aimer. Je me concentre sur les besoins d'Erland et Erland se concentre sur les besoins de Bertrand.
Amen. Voilà, même si on ne peut pas toujours avoir des qualités, mais on se concentre.
Décider de continuer à valoriser son conjoint est sans nul doute une des clés qui permettra à ton couple d'être heureux. Valoriser l'autre. Zolo, on est des Zolo. Cette décision n'est possible que si nous renonçons à nos attentes irréalistes envers notre conjoint. Si nous acceptons mutuellement nos limites humaines et nos imperfections. En fait, si on fait la paix avec notre humanité. On fait la paix avec les imperfections de l'autre et avec mes imperfections à moi. D'accord ? On arrête d'attendre des choses impossibles. On arrête de se tirer une balle dans le pied. Okay, on arrête de dire tu es mon sauveur. Ben, non, c'est juste ton mari.
Là, l'image,
ton sauveur, il est là-haut. D'accord ? Donc c'est une décision. On renonce à nos attentes irréalistes. Et on essaye de faire de notre mieux pour répondre aux besoins de l'autre.
Amen.
Hein ?
On se noie là avec un sautant comme ça.
Ce sont nos besoins affectifs insatisfaits qui nous placent bien souvent en position de déception vis-à-vis de notre conjoint. Comprenez ça ? Ce sont souvent nos besoins affectifs insatisfaits qui nous placent bien souvent en position de déception vis-à-vis de notre conjoint.
Les attentes.
C'est les attentes. On a des attentes parce qu'on est des gens blessés, parce qu'on n'a pas reçu l'amour qu'on aurait dû recevoir. Et donc, on pense que quand on se marie, l'autre va nous apporter tout ce qu'on a besoin. Sauf que lui, il est blessé aussi. Et il a les mêmes besoins que nous. Et on lui dit, donne-moi ce que tu n'as pas. C'est ça qu'on lui dit. On lui dit, donne-moi ce que tu n'as pas.
C'est un peu agressif, là.
C'est la réalité. Mmh. On n'a pas. On est des êtres blessés. Okay, on donne ce qu'on peut, mais c'est bien imparfait. Mmh. On a besoin de Dieu pour réussir notre vie. On a besoin de notre conjoint, mais à sa place. Faut pas être aussi exigeant que ça. Nous sommes bien trop instables, imparfaits et bien souvent trop blessés pour pouvoir combler les manques affectifs et satisfaire toutes les attentes de notre conjoint. Faut être réaliste. Ok ? Si on est réaliste, si on est sage, on va partir sur des bons rails. Mais si on est irréaliste, qu'on n'a pas fait attention, mais qu'en réalité, quand on a choisi le conjoint, il y avait des mobiles cachés. Et les mobiles, c'est tout l'amour que j'ai pas eu, tu vas me le donner. Ben, ça marche pas. Ça marche pour aucun couple. Aucun être humain n'a ce pouvoir-là. La véritable guérison se trouve dans une relation intime avec Dieu, où son amour est répandu de plus en plus dans notre cœur. Comme Romains 5 le dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a une relation, comme on avait vu la première fois, il y a une relation à trois. Moi, Dieu et ma femme. Et la femme, c'est pareil. Dieu et l'homme. Si on n'a pas de relation intime avec Dieu, c'est mort. Je te le dis, moi, c'est mort. Le couple va tourner à un couple égoïste où on attend de l'autre trop de choses. Il faut une relation intime avec Dieu. C'est pas une option d'avoir une relation intime avec Dieu. Sinon, on sera irrité. Sinon, vous serez en colère. Et à chaque fois que vous êtes en colère, à chaque fois que vous êtes irrité, allez voir Dieu. Vous avez besoin d'aller chercher une petite transfusion d'amour. Ah oui. Moi, je vous le dis, quand vous êtes énervé, quand vous êtes agressif, quand vous êtes en colère, quand vous manquez de patience, cherchez pas pourquoi. Il vous manque d'être branché à la bonne source.
Amen.
C'est un bon thermomètre. Irrité, en colère, se fâcher pour un oui, pour un non, toujours dans les reproches, toujours ci, toujours ça. Tu manques d'amour. Et l'amour à la bonne source. Faire la paix avec notre nature pécheresse. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ? Ton mari te décevra, ta femme te décevra, tu décevras ton conjoint. Fais la paix avec ton humanité et avec les limites humaines. Et tu seras bien heureux. Prenons une bonne décision, consacrons à notre couple le temps qu'il mérite et adoptons les bonnes attitudes, faisons vivre notre couple.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Et amen.
Amen.
Alléluia.